La matinale sur Radion.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur Radion. On est avec vous jusqu'à midi et j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir au micro de Radion Cyril Roualet, qui est directeur de système d'information externalisé à temps partagé. Bonjour Cyril.
Bonjour Alain.
Qu'est-ce que c'est qu'un DSI ?
Alors le DSI, c'est le directeur des systèmes d'information. Donc c'est la personne qui est en charge de diriger tous les sujets autour de l'informatique, de la communication et de toutes ces technologies de façon globale. Hein. On parle de cybersécurité, on parle de réglementation RGPD, on parle de comment fonctionne un téléphone, un ordinateur, etc.
Pouvez-vous expliquer davantage à quoi consiste la digitalisation des entreprises et comment vous aidez les entreprises dans ce processus ?
En fait, déjà pour expliquer la digitalisation, revenons sur la dématérialisation, hein, de se dire que y a déjà une étape qui maintenant est, je pense, dans la tête de chacun, de savoir numériser un document physique papier. Et dans les process métiers, on est souvent amené à imprimer un document numérique pour le signer, le rescanner, le renvoyer. La digitalisation, pour simplifier la définition, c'est dématérialiser de bout en bout un process métier.
Cela veut dire que certains ne savent pas encore numériser un document ?
Oh oui, ça c'est. Il y a encore des habitudes papier qui sont encore bien ancrées dans le fonctionnement des entreprises. Et c'est toute la difficulté des projets qu'on peut mener, c'est d'accompagner les gens au changement et à s'approprier ces nouvelles technologies.
Il est vrai que vous avez été pendant 15 ans au conseil départemental. Comment avez-vous évolué de chef de projet donc au sein de ce conseil départemental de Lyon vers des missions plus globales et stratégiques ?
Eh ben en fait, c'est vrai que ces 15 années ont été très riches d'expérience et en arrivant, j'ai principalement eu des missions de pilotage de projets web, donc la mise en place de différents sites, dont le site du département, hein, qui est toujours en place, hein, qui est en cours de refonte, hein, des dernières informations que j'ai. Et dans tous ces projets, c'était des projets donc qui était vraiment 100% à ma charge, de l'étude des besoins, accompagner les services à exprimer leurs besoins, les comprendre, mettre en place les bonnes solutions, et après, une fois que les solutions étaient en place, pouvoir accompagner la maintenance, les mises à jour, et aussi avoir toute la partie technique d'installation d'un site, d'un serveur web, etc. Et dans le temps, d'autres missions sont venues sur de l'informatisation de services qui pouvaient toucher à différentes parties techniques. Et j'ai pu prendre un peu plus de hauteur pour maîtriser toutes les chaînes d'un système d'information. Et donc, dans l'évolution que j'ai pu avoir dans ces différentes missions, à un moment donné, c'est de se dire, vu que j'ai une maîtrise assez globale, sans forcément être expert dans tous les domaines non plus, hein, faut pas, voilà, mais de comprendre comment ça fonctionnait, de se dire, est-ce que je peux pas continuer à évoluer au bout de 15 ans et arriver à la quarantaine aussi, de se dire, est-ce qu'il n'est pas temps de changer un petit peu de voie, en tout cas de métier, pour continuer à grandir, à prendre d'autres compétences, se remettre un peu en question, et c'est là que j'ai pu voir dans mes recherches les offres de DSI actives et de se dire au final le poste de DSI ça peut être quand même intéressant.
Vous nous avez donné un exemple concret de site internet avec celui du conseil départemental de Lyon. Faut-il actualiser souvent les sites internet ?
Je dirais que c'est comme tout logiciel ou tout matériel, il y a des technologies qui évoluent très rapidement. Et si on reste trop longtemps sur la même technologie, à un moment donné, on n'est plus au goût du jour et on répond plus aux besoins ou aux attentes des internautes, des visiteurs du site. Et le déploiement de nouveaux services, de nouvelles fonctionnalités, aussi de nouvelles chartes graphiques, de façon de présenter les choses, c'est effectivement un besoin d'évolution qui doit être fait de façon régulière.
Comment vous arrivez à gérer les problèmes de sécurité et les mises à jour réglementaires pour les entreprises que vous accompagnez ?
Je dirais que c'est des mises en place de moyens techniques. Donc il y a des solutions qui existent pour permettre d'avoir un système qui soit dit sécurisé. Donc sécurisé pour se protéger des attaques, des risques. Sécurisé pour aussi permettre au système de fonctionner avec des moyens de secours. Et donc c'est là qu'on parle de résilience. Après, le constat qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre toutes les techniques du monde à la disposition des entreprises. Si le personnel qui se sert de ces solutions n'est pas formé, informé, sensibilisé aux risques, la principale faille, elle est souvent là, quoi. C'est le personnel.
Allez, on part sur une pause musicale. On se retrouve dans un tout petit moment sur Radio Anne.
La matinale sur Radio Anne.
C'était une nouveauté sur Radio Anne et je vous rappelle, si vous voulez avoir les titres des différentes chansons qui passent, vous allez sur le site radioanne.fr et dans les petits onglets en haut, vous verrez, il y a les titres diffusés. Toujours avec Cyril Rouhallet qui est avec moi jusqu'à midi. Rebonjour Cyril.
Rebonjour.
Cyril, pouvez-vous expliquer les trois phases de vos missions, que ce soit l'audit, l'état des lieux, les plans d'action et surtout l'accompagnement ?
L'accompagnement. Effectivement, dans le cadre de DSI Active, on est sur un réseau d'indépendants et tous les réseaux de groupes actifs ont une approche similaire. C'est pour bien accompagner son client, c'est déjà savoir dans quelle situation il se trouve. Donc l'état des lieux, l'audit de base permet de, dans le cadre des missions DSI, de faire un tour d'horizon sur les installations techniques, postes de travail, serveurs, télécommunications, espace collaboratif, messagerie et plein de sujets, et aussi les méthodes de travail, les process métiers, on parlait tout à l'heure de digitalisation des processus métiers, c'est de savoir comment les gens travaillent et d'identifier les points forts mais aussi les pistes d'amélioration, et c'est surtout sur l'ensemble de ces pistes d'amélioration qui vont être catégorisées selon différents degrés d'urgence qui vont permettre de savoir ce qu'il faut faire et donc de pouvoir préparer la deuxième étape qui est le plan d'action qui va permettre de traiter ces différentes pistes issues de l'audit. Ce plan d'action, on le construit avec le dirigeant, parce que c'est lui qui pilote son entreprise, sachant que nous, on est experts en système d'information, et donc de décharger le dirigeant qui s'occupe, sans forcément avoir les compétences de ce domaine-là, de pouvoir lui apporter ces compétences-là. Et ce qui nous différencie de d'autres consultants qui peuvent aussi faire des audits, c'est que les préconisations que l'on fait dans le plan d'action, on s'assure qu'elles vont bien être mises en œuvre dans un accompagnement d'un an pour commencer, qui peut être renouvelable selon le plan d'action et les différents projets qu'il y a à mener sur la durée. Donc ça peut être un an, deux ans, cinq ans, dix ans, autant qu'il y a de besoins d'accompagnement du système d'information. Et on détermine surtout la temporalité, la périodicité d'intervention, qui peut être plus ou moins élevée selon les projets, selon aussi la maturité qu'on va mettre en place dans l'entreprise.
Est-ce qu'on va vers une évolution technique ou alors vers une rentabilisation de l'entreprise ?
Alors, ce qu'on met en avant, c'est que la digitalisation, c'est comme ça qu'on apporte aussi les choses, c'est un vecteur de démarcation concurrentielle, c'est un avantage concurrentiel que l'on permet aux entreprises de mettre en avant pour développer des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux services, ou en tout cas d'améliorer la rentabilité. La digitalisation a pour principal objectif d'automatiser des tâches à faible valeur ajoutée que font les salariés au quotidien, et de leur permettre de se concentrer eux sur les tâches à forte valeur ajoutée et d'automatiser le reste.
Comment choisissez-vous entre travailler chez vos clients et travailler depuis votre maison? Et quels sont les facteurs qui influencent cette décision?
La première, c'est la distance. C'est des fois effectivement peut-être plus pratique, plus efficace de rester à la maison. Malgré tout, moi, je m'efforce, je m'efforce pas. Hein. D'ailleurs, c'est un réel besoin d'être au contact des clients, d'être présent, surtout en début de mission, pour avoir le contact, le ressenti. Et ça, le digital ne nous le retirera jamais. On le vit aussi avec les réseaux sociaux. Hein. On sait que c'est bien de donner des nouvelles par Facebook ou autre réseau. Mais sauf se voir, ça reste essentiel. Et donc, moi, je privilégie quand même le présentiel pour faire mes missions.
Mais ça a été l'histoire du Covid qui a développé cette, cette mise en place du distanciel.
Oui. Et c'est vrai que c'est le côté bénéfique quelque part d'avoir pu accélérer quelque part la digitalisation et l'émergence de solutions de visioconférences. Il y en a beaucoup hein, selon les éditions et les éditeurs de logiciels. Par contre, ça a été fait dans la précipitation et de façon assez anarchique quelque part, même s'il y a quand même des process qui ont été mis en place de façon qualitative. Et effectivement, l'une des facettes de l'audit, c'est de se rendre compte de l'écart avec les bonnes pratiques dans l'utilisation, la sécurisation, l'appropriation de ces outils qui ont effectivement submergé nos vies au moment de la période du Covid et de pouvoir mieux les organiser, mieux les insérer dans les process métiers et d'optimiser le fonctionnement.
Mais c'est un investissement supplémentaire pour l'entreprise, le distanciel.
Ça, c'est oui et non. C'est effectivement un investissement de départ. Ce qu'il faut voir derrière, c'est enfin ce qui ressort. En tout cas, et ce que j'ai pu vivre aussi de mon côté, hein, c'est de se dire qu'on reste plus productif quand on est en distanciel parce qu'on est peut-être moins dérangé par le fait de se croiser dans les couloirs avec les collègues, d'être dérangé parce qu'on est présent et qu'on peut répondre à des questions. Donc, quand on a un réel besoin d'avancer et de se concentrer sur un sujet, le distanciel est quand même favorable et augmente la productivité à ce niveau-là. Après, le mix entre le présentiel et le distanciel est essentiel pour garder un peu ce contact humain et de pouvoir échanger de vive voix sur des problématiques, et ça fait mieux avancer les choses quand on se voit plutôt que quand on est à distance en visio. On avance quand même, mais c'est différent.
Merci Cyril. Allez, on part sur une pause musicale. On se retrouve dans un petit moment sur Radion.
L'aube fend le ciel et soupire.
La matinale sur Radion.
C'était une nouveauté sur Radion, Pascal Obispo et Alexa Crédy, Les Longueurs. Toujours avec Cyril, on parle bien d'informatique, digitalisation. Cyril, rebonjour.
Rebonjour Alain.
Cyril, pouvez-vous expliquer comment vous accompagnez le dirigeant dans ses choix informatiques et la gestion des collaborateurs et prestataires?
Alors, vaste sujet. C'est vrai que selon les besoins, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, sur l'état des lieux révélé par l'audit, le plan d'action que l'on met en place, c'est un choix entre la technologie, les besoins, la typologie d'activité, différentes solutions peuvent être proposées sur le marché, et donc c'est un peu faire une étude de marché, de savoir quelles sont les solutions disponibles, les technologies qui peuvent répondre le mieux avec un meilleur rapport qualité-prix pour le dirigeant.
Est-ce que le parc informatique revient plus cher à l'heure actuelle?
Ça reste une dépense, plus chère. C'est surtout une question d'évolution technologique. Je pense que sur à prix constant, la performance augmente dans le temps. Hein. Je dirais que c'est pas forcément nécessairement plus cher. Après, c'est savoir à quelle fréquence on le renouvelle, comment on entretient son matériel, quels sont les risques de vétusté. J'ai, en tout cas, de mon point de vue, j'ai pas l'impression que ça soit non plus le plus gros poste de dépense. La forte évolution qu'il peut y avoir dans le changement d'un système d'information, c'est le changement de modèle commercial qu'on a vu évoluer depuis quelques années, et notamment avec le changement d'acquisition de licences perpétuelles par le passé, qui maintenant deviennent des abonnements. Hein. On peut penser à Microsoft Office 365, qui maintenant est mensualisé, alors qu'avant on pouvait acheter des licences à vie. Et donc on a d'autres services, mais voilà, le modèle économique a changé.
Est-ce que ça nuit pas à l'entreprise comme ça, ces abonnements, plutôt qu'effectivement d'avoir une licence à vie? Et est-ce que ça pousse pas les entreprises à rester dans l'ancien système?
Je dirais que ce changement-là est justifié ou se justifie par aussi la mise à jour qui vient avec les mises à jour régulières dans l'abonnement. Le fait d'avoir une licence à vie, je dirais, enferme l'entreprise dans une version d'un logiciel qui va pas forcément être à mettre à jour, et que si on veut faire une mise à jour, il faut racheter des licences. D'accord. Ou en tout cas avoir d'autres opérations. Donc je dirais que l'avantage c'est d'avoir des mises à jour, et sur certains systèmes qui peuvent être vulnérables, avoir des mises à jour c'est quand même confort quand on voit les risques de cybersécurité notamment, et d'avoir un système d'information à jour, c'est quand même une base d'hygiène, je dirais, incontournable.
Plutôt dans les logiciels de travail, j'allais dire tout ce qui est productivité, ou alors de comptabilité?
Tout domaine confondu. Après, il y a forcément des outils où il y a moins d'exposition en termes de risque, selon si on est sur un logiciel installé en interne ou si c'est un logiciel qui peut être accessible en externe, en service, hein, ce qu'on appelle le SaaS notamment. Mais bon, il y a toujours des protocoles sécurisés. Après, je dirais que l'enjeu des mises à jour, il va dépendre effectivement des aspects de sécurité, mais aussi de fonctionnalités. Et quand on parle de digitalisation et d'avantages concurrentiels, si on reste sur des anciennes versions et qu'on n'a pas forcément les dernières fonctionnalités, ça peut être contre-productif par moment.
C'est un point noir. Quelle est votre principale motivation, surtout en exerçant cette activité d'accompagnement, et pourquoi est-il important pour vous d'aider les autres?
C'est un peu l'accomplissement, je dirais la satisfaction personnelle, au-delà de ce que je disais de changer de carrière et d'être passé en direction des systèmes d'information externalisés. C'est avant tout de rendre service et de voir que notre action permet d'améliorer le quotidien des autres et de leur apporter un meilleur confort. Comme on disait, de supprimer les tâches à faible valeur ajoutée, on leur apporte une autre perspective sur la mission, et c'est déjà l'enrichissement personnel dans l'échange humain, hein, le contact qui reste privilégié. Après, on fait des missions qui sont humainement riches, et donc dans l'échange, de comprendre le métier des autres, c'est s'approprier aussi d'autres métiers et mieux connaître ce que font les autres pour mieux les aider aussi. Donc c'est en tout cas une grande motivation de pouvoir faire apporter cette aide-là.
On me l'a dévoilé hors antenne, mais en parallèle, vous exerciez aussi au sein d'associations humanitaires.
Bon, humanitaire surtout, j'ai deux clients qui sont associatifs, qui accompagnent les personnes en situation de handicap au quotidien. Donc c'est aussi quelque chose d'assez sérieux comme sujet. Moi, dans le côté associatif, je suis très engagé au niveau du basket de Lyon et au niveau de la région en tant qu'arbitre.
Oui, parce que vous avez été arbitre, et puis vous avez été au niveau national aussi.
Oui, au championnat de France, une saison l'année dernière, et puis un peu dans le passé aussi, mais c'est toujours une expérience dans l'arbitrage en tout cas, et puis le rôle de dirigeant aussi, hein, d'association au niveau du comité départemental. J'ai fait aussi une année au niveau de la ligue régionale. Ça donne des expériences en termes d'encadrement, de pilotage, d'organisation et de prise de décision. Si on cumule tout ça, c'est vrai que c'est une activité en parallèle qui m'a permis de grandir et de pouvoir aussi assumer ces missions de direction.
Pourriez-vous expliquer comment la notion du temps partagé peut être une opportunité pour les chefs d'entreprise dans leur contexte actuel?
C'est une réelle nouveauté, je dirais, dans l'offre de d'acquisition de compétences qui sont des domaines d'expertise. Le gérant typique d'une PME a 50 casquettes au-dessus de sa tête, entre la direction des ressources humaines, l'administratif et financier, la partie informatique, la partie métier, etc., etc. L'emploi classique et traditionnel à temps plein d'un directeur des systèmes d'information ou d'un DAF, d'un DRH, c'est un poste très très onéreux, et le fait de qui n'est pas forcément justifié en plus à temps plein. Donc la notion de temps partagé permet justement de s'adapter aux besoins du dirigeant sur un coût qui va être quand même inférieur, plus intéressant, et de pouvoir lui se décharger d'un rôle qui n'a pas forcément les compétences pour le faire. Donc ça permet cette notion de temps partagé de vraiment apporter juste ce qu'il y a besoin pour faire en sorte que ça fonctionne bien.
À court terme, quels sont vos principaux objectifs et défis pour votre entreprise Digitalisation ?
Eh bien, dans un premier temps, moi déjà, je tiens aussi à remercier les clients qui m'ont permis de démarrer mon activité assez rapidement. Ils m'ont fait confiance et m'ont permis de démarrer mon activité, j'irais, sous les meilleurs auspices. Donc, l'objectif à court terme, c'est de satisfaire mes clients et de pouvoir leur apporter toute mon expertise et l'expérience que j'ai par ailleurs, et de pouvoir maintenir donc cette activité de pouvoir perdurer dans ces missions, dans ces accompagnements là, et faire en sorte que ça marche bien.
Quels facteurs influenceront votre décision d'embaucher du personnel à moyen terme, et quels besoins spécifiques surtout anticipez-vous ?
À l'heure actuelle, c'est vrai que aujourd'hui, l'organisation en termes de temps est quand même très importante, parce que j'ai la chance d'avoir un emploi du temps très chargé avec les clients que je peux avoir, et je suis vite arrivé du coup à cette question de dire est-ce que je veux continuer à me développer, et auquel cas il faudrait que je puisse me faire accompagner. C'était plutôt des questions que je m'imaginais avoir à moyen voire long terme, mais au final ça se pose plus vite que prévu, tant mieux.
C'est que ça marche, ouais.
Et c'est parce qu'aussi il y a beaucoup de besoins, donc je dirais que plus les dirigeants seront sensibilisés aux risques qu'ils encourent par rapport à l'évolution de leur système d'information dans le cadre de cette digitalisation, ça sera éventuellement de pouvoir soit embaucher, soit en tout cas avoir de la même façon peut-être des personnes à temps partagé qui pourraient être en freelance pour m'aider à satisfaire les clients et les demandes qui sont quand même je dirais importantes.
Allez, on part sur une petite pause musicale, on se retrouve dans un petit moment sur Radion.
La matinale sur Radion.
Pratiquement 11h52, toujours avec Cyril Wallet, qui est donc dirigeant de la société Digitalix Action. Cyril, comment prévoyez-vous de maintenir un équilibre entre votre vie professionnelle et surtout votre vie personnelle, étant donné vos aspirations à la stabilité, à l'épanouissement ?
C'était l'un des objectifs de ce changement de cap professionnel en étant indépendant, c'était de pouvoir m'accorder cette flexibilité, cette souplesse d'organisation entre le temps de travail professionnel, la vie de famille, les loisirs et autres aussi activités associatives.
Hein. On a parlé juste avant. Savoir que vous êtes père quand même de 3 enfants de 2 à 7 ans, donc ils sont encore jeunes enfants, et c'est vrai qu'il faut s'en occuper.
Il faut s'en occuper, il faut aussi concilier le travail aussi de mon épouse qui est infirmière. Mmh. Des temps de travail qui sont un peu variables, qui peut aussi se passer sur le week-end, donc il y a un réel équilibre à trouver. Et je dirais que c'est à moitié chose faite pour moi me permettre de concilier les choses. Quand il faut être, de débaucher un peu plus tôt pour s'occuper des enfants, je peux avoir plus de latitude à travailler un peu hors horaire classique, en soirée, peut-être un petit peu le week-end aussi pour se mettre à jour si on a profité un peu plus la semaine pour faire d'autres activités. Et donc c'est un équilibre en fait où on a moins de contraintes sur les périodes de bureau classique où on va pouvoir s'adapter. Donc c'est une souplesse d'être indépendant à ce niveau-là.
On dit souvent qu'un dirigeant d'entreprise ne compte plus ses heures. Les 35 heures, c'est fini.
C'est fini, oui, c'est une volonté, hein. Après c'est aussi le modèle qui m'a attiré, de se dire ben, est-ce que potentiellement il est possible de ne travailler que 35 heures, ou en tout cas de dire est-ce que je peux travailler 4 jours par semaine. C'est après le rythme à définir avec les clients, et que si nos objectifs de on peut parler un peu de rémunération, de choses comme ça, si on a un équilibre en travaillant moins, ça peut rester une possibilité. C'est ça aussi que je cherche à avoir, en tout cas.
Comment vous voyez l'évolution technologique, en particulier en ce qui concerne le Web 3, influencer votre secteur d'activité? Est-ce que vous comptez le faire à long terme?
Effectivement, on en parlait un peu en antenne, mais à l'heure actuelle, le constat est que les dirigeants sont pas encore tous, toutes les entreprises ne sont pas encore dans le web 2. La maîtrise du web, du site internet, il y a encore des entreprises qui n'ont pas de site internet. Bon, c'est pas une obligation.
Il y a encore des entreprises qui n'ont pas de site internet.
Et oui. Il y a des statistiques, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que ça doit être un quart ou un tiers qui sont pas forcément dotés. Après, c'est pas forcément une obligation non plus, mais ça traduit quand même sur ce seul point une tendance. Donc si toutes les entreprises ne sont pas encore en maîtrise des technologies actuelles, quid de l'avenir, sachant que le Web 3 tend à avoir une gestion des données décentralisée, une meilleure protection de ces données, mais aussi d'apporter d'autres services avec tout ce qui est métavers, tout ce qui est blockchain, qui peut être lié à tout ce qui est crypto-monnaie, NFT, enfin tout plein de choses qui vont révolutionner et qui sont en cours de révolution sur les entreprises qui se mettent à la page. Donc c'est vrai que à l'heure actuelle, la tendance de mes missions, c'est de se dire on va déjà mettre en conformité les entreprises dans le Web 2, mais c'est de se dire aussi attention, ne perdons pas de vue que les évolutions sont très rapides, et quel est l'intérêt d'anticiper aussi quelques changements futurs dans un plan d'action, justement comme on le disait tout à l'heure, dans l'accompagnement selon aussi les besoins réels, hein. Il n'y a pas non plus besoin d'être à la pointe quand l'activité ne nécessite pas, mais il faut quand même avoir ça dans un coin de l'esprit pour quand on fait un plan d'action à moyen long terme.
Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de métier que vous pensez être créé dans le cadre de l'évolution technologique à venir? On parle du métavers à la rigueur, est-ce que ça peut porter des emplois par la suite?
Je dirais que y a encore à moyen terme des emplois qui vont être créés que l'on ne connaît pas encore. Je pense que y a aussi tout un pan de l'économie qui en mutation. On parlait de crypto-monnaie, ça en fait partie.
Elle est à l'honneur, la crypto-monnaie, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup dans le grand public.
C'est un domaine qui reste encore disponible pour les intéressés. Les impacts commencent à se faire ressentir de façon plus concrète. Je sais que je dis pas de bêtises, c'est au niveau des Émirats qu'il y a une officialisation du Bitcoin en tant que monnaie officielle pour concurrencer le dollar. Donc il y a un État, je me rappelle plus le nom, qui a fait de sa monnaie officielle aussi la crypto. Donc il y a des vraies évolutions évolution à ce niveau-là. Et donc forcément, demain, est-ce qu'on aura encore, ne serait-ce que des téléphones, des abonnements téléphoniques, tout ce qui est SMS, etc., ça va disparaître quand on voit toutes les façons de communiquer qui évoluent. Donc oui, forcément, il y a des nouveaux métiers qui vont apparaître, qui vont, je pense, aussi s'amplifier avec cette nouvelle technologie, donc de réelles opportunités de changement de carrière à venir. Oui.
Cyril, une dernière question. Comment envisagez-vous l'avenir de digitalisation et quelles sont les aventures que vous prévoyez de vivre à plus long terme ?
Eh bien, c'est continuer avec Digitalisation, de continuer dans l'action de digitalisation. C'était le petit jeu de mots qui m'a bien plu quand j'ai créé mon entreprise. L'idée, c'est de pouvoir éventuellement embarquer avec moi différentes personnes, différents collaborateurs à venir, de éventuellement aussi côtoyer des futurs collègues de chez DSI Active ou des autres réseaux de groupes actifs, hein, Prospective, Productive, DRH et DAF Active aussi, de pouvoir continuer de proposer des services aux gérants, dirigeants d'entreprise pour qu'ils puissent aller dans le sens de la digitalisation et se rendre compte qu'il y a quand même un retard à combler. Et je dirais que si on peut, ne serait-ce que déjà aujourd'hui, faire prendre conscience aux dirigeants qu'ils ont des questions à se poser sur leur la gestion informatique et digitale, et ben c'est le moment de le faire et ça permettra aussi, pour moi en partie, de continuer à développer mon activité.
On peut donner les coordonnées du site internet ?
Le site de Groupe Active, donc Groupe Active.
puce.com.fr
et sur DSI Active.com, donc il y a toutes les coordonnées des experts DSI sur la France qui peuvent accompagner les dirigeants d'entreprise dans leur digitalisation.
Très bien Cyril, bien merci d'avoir participé à cette émission.
À vous.
Beaucoup de questions, également beaucoup de réponses. Dans l'instant, c'est les infos nationales et internationales. Cyril, à très bientôt
à
et
très
on vous souhaite une bonne journée.
Merci. Au revoir. À vous. Enfin.
Radion.